À présent, je vais donner la parole à Son Excellence Sushma Swaraj, ministre des Affaires étrangères de l'Inde.
नमस्कार सभापति जी, सबसे पहले तो मैं
Monsieur le Président, j'aimerais pour commencer adresser mes plus chaleureuses félicitations à Monsieur le Président Lajac pour son élection à la 72e présidence de la 72e session de l'Assemblée générale. Pour ceux d'entre nous qui avons la chance de représenter nos nations en tant que ministre des Affaires étrangères, l'événement est particulièrement heureux. L'un des nôtres a cet honneur. Madame la Présidente, j'ai pris la parole devant l'Assemblée l'année passée aussi. Depuis, bien des changements sont intervenus au sein de cette Assemblée et dans le monde que nous représentons. Nous avons un nouveau secrétaire général à la tête des Nations Unies. Il est déterminé à préparer et renforcer les Nations Unies pour lui permettre de relever les défis du XXIe siècle. Nous nous félicitons de ses efforts et voyons en lui un dirigeant capable de passer de la parole aux actes. Madame la Présidente, notre monde contemporain est en proie à de multiples maux dont les plus dangereux sont probablement la montée en puissance irrésistible de la violence, le terrorisme, les idéaux à l'origine de ce mal se propage à la vitesse de l'éclair. Le changement climatique nous confronte, nous menace par son ampleur. La sécurité maritime est un grand point d'interrogation pour différentes raisons de provocation, discours incendiaires. Nombreux sont ceux qui doivent quitter le confort psychologique, culturel, économique de leur foyer, recherchant refuge dans des rives lointaines, causant de nombreuses anxiétés à l'échelle mondiale. Grande partie de la population mondiale est en proie à la faim, à la pauvreté. Les jeunes perdent espoir, confrontés au chômage. Les femmes sont victimes de discrimination. La non-prolifération refait dangereusement les gros titres. La cybersécurité est devenue source d'insécurité marquée. En 2015, nous sommes fixés, à l'horizon 2030, de trouver une solution à nombre de ces défis. 2 années se sont déjà écoulées. Il est plus que temps de nous demander dans quelle mesure les choses ont bougé. Si la complaisance devient le sceau des 13 années à venir, alors nous risquons de perdre le contrôle. Nous avons besoin d'agir dans l'urgence, de faire montre d'une force morale inébranlable pour prendre les décisions qui permettront d'éviter une catastrophe. Je suis heureuse que l'Inde ait fait montre du courage, de l'esprit de direction nécessaire à la prise de décisions difficiles ayant permis de lancer un processus de développement durable. L'élimination complète de la pauvreté est la priorité la plus importante de notre gouvernement, Madame la Présidente. Il y a 2 façons d'aborder cette malédiction de la pauvreté. La méthode traditionnelle passe par une aide, une assistance croissante. Mais notre Premier ministre Narendra Modi a opté pour une solution plus radicale, à savoir l'autonomisation économique. Les pauvres ne sont pas impuissants. Simplement, nous leur avons refusé la possibilité d'agir. Nous éliminons la pauvreté en investissant dans les pauvres, en les transformant des demandeurs d'emploi en fournisseurs d'emploi. Tous nos programmes économiques visent un but, l'autonomisation des pauvres. Janda, Mudra, Ujvala, Skill India, Digital India, Clean India, Startup India, Stand Up India. Décrire tous ces programmes prendrait bien plus de temps que je n'en ai à ma disposition. Par conséquent, je me bornerai à n'évoquer que 3 programmes fondamentaux. Le plan Jandan est probablement parmi les dispositifs d'inclusion financière les plus importants à l'échelle planétaire. Ceux qui n'avaient pas d'argent ont pu bénéficier de l'ouverture de comptes bancaires. Cela n'aurait pas été possible ailleurs dans le monde. Si vous n'avez pas d'argent, vous ne pouvez pas ouvrir de compte bancaire normalement. Or, à présent, ils disposent de comptes en banque. L'impossible est devenu possible en Inde. 300 millions d'Indiens au moins, ce n'est pas rien. C'est la population totale des États-Unis d'Amérique. 300 millions d'Indiens qui n'avaient jamais franchi la porte d'une banque disposent à présent de comptes bancaires. Certes, cela n'a pas été simple à réaliser en l'espace de 3 ans, mais nos banques ont réalisé la vision de notre Premier ministre. Certes, d'aucuns restent encore à inclure, mais chaque famille indienne aura un terme à compte en banque. Le Mudra Yojana a permis au gouvernement de financer ceux qui n'ont jamais été financés, ceux qui n'avaient jamais rêvé de bénéficier d'un crédit bancaire. Peuvent à présent y avoir accès et créer des micro-entreprises à des conditions préférentielles. Je suis particulièrement ravie de vous dire que 70% des prêts accordés bénéficient aux femmes. Le chômage est source de désespoir. Grâce à Skill India, Startup India et Stand Up India, les jeunes des pauvres et des classes moyennes sont formés pour pouvoir créer leur propre petite entreprise. Le plan Ujjwala est un dispositif phare du gouvernement. Pour les femmes pauvres, il faut travailler très dur pour nourrir sa famille. Parfois, les femmes perdent la vue du fait de la fumée qui se dégage dans leur cuisine. Des bonbonnes de gaz sont gratuitement mises à la disposition des pauvres pour que les femmes n'aient plus à subir les conséquences graves des poêles à bois dans leur cuisine. L'émancipation des femmes est au cœur de ce programme. La démonétisation a été une décision courageuse prise pour lutter contre une des conséquences de la corruption, à savoir l'argent noir qui disparaît de la circulation. Aujourd'hui, nous avons adapté une législation sur la taxe applicable aux biens et aux services, une taxe unique et pratiquée qui évite les taxes multiples, inégales. Notre campagne Sauvons les filles, éduquons les filles permet de réduire les inégalités hommes-femmes. Le programme Clean India a permis de lancer des changements révolutionnaires au plan des attitudes et des habitudes sociales. J'aimerais à ce stade dire que les nations qui possèdent toujours plus de capacités peuvent opérer des changements, mais le monde développé doit être partenaire actif pour aider les plus vulnérables qui se trouvent encore dans le piège de la pauvreté. Nous devons réaliser les ODD. Nous avons lancé cette année un fonds de partenariat des Nations Unies pour le développement. Nous sommes heureux de l'annoncer. Madame la Présidente, nous sommes pleinement impliqués dans la lutte contre la pauvreté. Malheureusement, notre voisin, le Pakistan, lui, ne semble s'intéresser qu'à nous combattre. Jeudi, depuis cette même tribune, le Premier ministre du Pakistan, Shahid Rabbanabazi, a passé l'essentiel de son allocution à nous accuser de terrorisme d'État, de violer les droits de l'homme. Ceux qui l'ont entendu n'ont pu se faire qu'une remarque, mais c'est l'hôpital qui se moque de la charité. Un pays qui est le principal exportateur mondial de chaos, de mort, d'inhumanité, se fait le chantre de l'hypocrisie en prêchant l'humanisme depuis cette tribune. Le Premier ministre du Pakistan affirme que le créateur de son pays, Mohamed Al-Jinnah, lui avait légué une politique étrangère fondée sur la paix et l'amitié. Je lui rappelle que si la question reste posée de savoir si Jinnah Sahab prenait vraiment ses principes, il ne fait aucun doute que le Premier ministre Narendra Modi de l'Inde, dès qu'il a prêté serment, tendu la main de la paix et de l'amitié. Le Premier ministre du Pakistan devra répondre à la question de savoir pourquoi sa nation a ignoré cette offre. Le Premier ministre Abbasi a rappelé toutes les résolutions qui, depuis longtemps, ont été dépassées par les événements, mais sa mémoire, comme c'est commode, lui fait défaut. Il a oublié qu'en vertu de l'accord de Shimla et de la déclaration de Lahore, l'Inde et le Pakistan avaient décidé de régler tous leurs différends bilatéralement. Le fait est que les politiques du Pakistan manipulent la mémoire à leur confiance. Ils sont passés maîtres dans l'art d'oublier les faits qui vont à l'encontre de leur version des faits. Le Premier ministre du Pakistan a parlé de dialogue approfondi entre nos deux pays. J'aimerais lui rappeler que le 9 décembre 2015, lorsque j'étais à Islamabad pour la conférence Cœur de l'Asie, une décision avait été prise par son dirigeant, Mian Nawaz Sharif, alors Premier ministre, que le dialogue entre nos deux pays devrait reprendre. Nous avions parlé de dialogue bilatéral approfondi. Le terme bilatéral avait été utilisé à dessein pour lever tout doute quant au fait que ces pourparlers proposés devraient s'instaurer entre nos deux nations et uniquement entre nos deux nations, sans la présence de tierces parties, quelles qu'elles soient. Qu'ils répondent à la question suivante. Pourquoi cette proposition s'est-elle essoufflée, a-t-elle disparu? Parce que le Pakistan est responsable de l'abortement du processus de paix. Madame la Présidente, j'aimerais aujourd'hui dire aux politiques du Pakistan, leur poser la question suivante. Ont-ils jamais songé au fait que l'Inde et le Pakistan ont acquis leur indépendance à quelques heures d'intervalle? Or, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui l'Inde est une superpuissance des technologies de l'information dans le monde? Et pourquoi le Pakistan est reconnu comme sur la principale usine à terroristes dans le monde? Pourquoi se sont-ils jamais posé la question? Il n'y a qu'une raison qui explique cela. L'Inde a progressé, bien qu'elle est la principale destination des terroristes abominables du Pakistan. Nombreux sont les gouvernements, les partis qui se sont succédés à la tête de l'Inde depuis 70 ans. Nous sommes une démocratie de longue date. Chaque gouvernement a apporté sa pierre à l'édifice du développement de l'Inde. Nous avons poursuivi notre marche en avant avec consistance, constance, sans relâche, dans le domaine de l'éducation, de la santé. Et dans différents autres domaines liés au bien-être humain. Nous avons créé des institutions scientifiques, techniques, qui sont notre fierté. Mais qu'a offert le Pakistan au monde, outre le terrorisme? Nous procédons des érudits universitaires, des médecins, des ingénieurs. Eux produisent Nous produisons des personnes formées, des scientifiques. Qu'a produit le Pakistan? Des terroristes, des djihadistes. Vous le savez. Les médecins sauvent l'humain de la mort. Les terroristes l'envoient vers la mort. Vos organisations terroristes attaquent non seulement l'Inde, mais nos voisins aussi, l'Afghanistan et le Bangladesh. Madame la Présidente, c'est peut-être la première fois qu'un pays a demandé un droit de réponse à l'Assemblée générale et a dû répondre à 3 pays. Ce seul fait n'est-elle pas criant? Si le Pakistan avait dépensé dans son développement ce qu'il a dépensé pour alimenter le terrorisme, tant le Pakistan que le monde seraient connaîtrait davantage de sécurité aujourd'hui. Madame la Présidente, le terrorisme fait partie des principaux problèmes pour lesquels les Nations Unies recherchent des solutions. Nous sommes les victimes les plus anciennes de ce terrorisme terrible, traumatisant. Lorsque nous avons commencé à parler de cette menace, nombre des grandes puissances du monde l'ont balayé d'un revers de la main, y voyant une simple question de maintien de l'ordre. Aujourd'hui, ils se sont ravisés. La question est la suivante. Qu'allons-nous faire? Nous devons tous nous adonner à un exercice d'introspection, nous demander si nos actes sont à la hauteur de nos paroles. Au plan bilatéral, multilatéral, nous condamnons tous ce mal. Nous sommes déterminés à lutter contre ce mal. Dans toutes nos déclarations, nous le réaffirmons. Mais le fait est que ces déclarations sont devenues des rituels. Le fait est que lorsque nous devons lutter contre cet ennemi, le détruire, l'égocentrisme de certains les amène à la duplicité. Et cela depuis des années. Bien que l'Inde ait proposé une convention globale de lutte contre le terrorisme international dès 1996, deux décennies plus tard, les Nations Unies n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur une seule définition du terrorisme. Si nous ne parvenons pas à nous mettre d'accord sur une définition de notre ennemi, comment le combattre ensemble? Si nous continuons de faire la différence entre les bons terroristes et les mauvais terroristes, comment pouvons-nous les combattre ensemble? Si même les Nations Unies et son Conseil de sécurité ne parviennent pas à se mettre d'accord sur une liste de terroristes, comment lutter ensemble? Madame la Présidente, par votre truchement et en toute sincérité, j'aimerais demander à cette auguste Assemblée de cesser de voir ce mal tout en nuances et nuances voué à l'échec et vide de sens. Le mal est le mal. Acceptons que le terrorisme est une menace existentielle qui pèse sur l'humanité. Rien, absolument rien, ne saurait justifier cette violence barbare. Démontrons ce nouvel engagement qui est le nôtre en parvenant à un accord sur une convention de lutte contre le terrorisme international cette année encore. Madame la Présidente, j'avais dit que le changement climatique était un important danger qui menaçait notre existence. L'Inde a déjà dit qu'elle était engagée en faveur de l'accord de Paris. Non pas que nous ayons peur de quelque puissance que ce soit, soyons influencés par des amis ou des ennemis, ou tentés par un gain potentiel. Non, cette décision découle de cette philosophie qui est la nôtre depuis 5000 ans. Notre Premier ministre, à son initiative personnelle, a lancé l'Alliance solaire internationale, preuve de notre ferme engagement en faveur de cette cause. Madame la Présidente, lorsque nous parlons de paix mondiale, nous voulons dire paix non seulement entre les êtres humains, mais paix aussi avec la nature. Nous comprenons que la nature humaine est parfois hostile à la nature. Nous souhaitons que la nature humaine s'amende lorsqu'elle erre sur la mauvaise voie. Lorsque nous imposons notre voracité à la nature, eh bien parfois la nature nous explose à la figure. Nous devons apprendre à vivre avec les impératifs, les cycles de la nature. Notre survie est à ce prix. Nous venons d'être le témoin d'ouragans, de séismes, de pluies qui inondent, de tempêtes qui terrifient. Ce n'est pas une coïncidence. La nature nous a mis en garde le monde avant même que les dirigeants de ce monde se soient réunis à New York aux Nations Unies, et ce, au travers d'Harvey. Lorsque nous avons commencé à nous réunir, un séisme a frappé le Mexique, un ouragan a frappé la Dominique. Nous devons comprendre que nous devons agir plus que parler. Le monde développé doit écouter plus attentivement que les autres parce qu'il possède davantage de capacités que les autres. Le monde développé doit aider les moins fortunés grâce au transfert de technologies, grâce au financement climatique. C'est là le seul moyen de sauver les générations futures. Madame la Présidente, nous discutons des changements et des troubles qui assaillent le monde, mais cette organisation qui a été créée pour gérer des affaires mondiales est en proie à ses propres problèmes. Elle semble penser qu'elle peut se permettre de ne pas modifier les préceptes qui ont présidé à sa création. Le 18 septembre a eu lieu ici même une réunion sur la réforme des Nations Unies. J'y ai préparé, j'étais témoin de ce désir évident de faire quelque chose. Mais je vous rappelle que lors du sommet mondial de 2005, un consensus a été dégagé, à savoir que la réforme rapide du Conseil de sécurité était un élément essentiel des efforts déployés pour réformer les Nations Unies. Les efforts déployés dans le cadre de négociations fondées sur un texte relativement à cette réforme et à l'élargissement du Conseil de sécurité ont été lancés lors de la dernière session. Plus de 160 pays ont appuyé ces efforts. Si nous sommes sérieux, alors le moins que nous puissions faire serait de produire un texte capable d'être la base de ces négociations. J'espère que, sous la direction éclairée du président de l'Assemblée générale, madame, cette question deviendra prioritaire. Si tel est le cas, alors nous aurons réalisé un progrès de taille. Nous nourrissons aussi de grandes attentes vis-à-vis du nouveau secrétaire général des Nations Unies. S'il veut réformer l'architecture paix et sécurité, il lui faudra aussi régler les réformes du maintien de la paix auxquelles nous aspirons depuis longtemps. Si nous n'améliorons pas le maintien de la paix des Nations Unies, cet objectif ne pourra pas être réalisé. Madame le Président, les problèmes ne manquent pas. Mais le temps n'est pas toujours du côté de ceux qui souhaiteraient évoquer des problèmes, les enjeux, pour nous offrir un monde meilleur, plus pacifique et plus progressiste. Les questions que vous avez choisies sont en lien direct avec la Charte des Nations Unies et correspondent aussi à nos traditions nationales. Madame la Présidente, la culture de mon pays a été façonnée par l'histoire, la philosophie, axée sur la paix en tant que seul objectif rationnel et pratique de l'humanité. Nous sommes convaincus que nous ne faisons partie que d'une seule et même grande famille. Chaque membre de cette famille mérite l'élixir de la vie, à savoir le bonheur. En conclusion, j'aimerais vous proposer une citation qui résume cette pensée. Soyons tous heureux. Soyons tous en bonne santé. Voyons tous ce qui est bon. Puissions-nous tous vivre exempts de souffrance. Soyons tous heureux, soyons tous en bonne santé. Puissions-nous tous voir ce qui est bon. Puissions-nous tous vivre exempts de souffrance. Soyons tous exempts de souffrance. Merci.
Je remercie la ministre des Affaires étrangères de l'Inde pour sa déclaration.